Chapitre 23 Les Amazones kirghizes. Au fond d'une étroite vallée s'élevait la maison de Dagrar, tel était le nom de l'indigène. Une habitation basse, en équerre, avec l'étable destinée aux yaks, un hangar pour remiser le chariot, voilà ce que Dagrar appelait pompeusement sa ferme. Du moins, on y était à l'abri du froid, et le foyer primitif, placé sous un trou arrondi découpé dans la toiture, réchauffait les hôtes tout en les enfumant. Rachmen avait repris ses sens. La violence du coup l'avait étourdi, mais sa blessure en elle-même ne présentait aucune gravité. « Une nuit de repos, dit-il, et demain nous repartirons. » D'ailleurs, les soins éclairés de la varenne ne lui firent pas défaut. Le lendemain, on tint conseil. Qu'allait-on faire? Le Français poussait à gagner Béarsand, que leur hôte avait indiqué comme proche. Vous avez relevé la trace d'une bande de guerriers, disait-il au Teke. Il est probable que les ravisseurs de Missoret habitent la ville. Dans ce pays, il n'est pas d'usage, et cela se conçoit, de s'éloigner beaucoup de l'agglomération à laquelle on appartient. C'est donc là qu'il faut chercher. Marliton se rallia à cet avis. Dagrar, interrogé, leur apprit que Béarsand se trouvait à 3 heures de marche. « Les Kirghizes, ajouta-t-il, sera assez dur aux étrangers, mais aujourd'hui vous n'avez rien à craindre d'eux. Ils célèbrent la fête des Amazones. »« Des Amazones ? » s'écrièrent les voyageurs surpris. « Je pensais que les dernières étaient au Dahomey. » termina le journaliste. La tribu, dit Eke, dont Béarsand est la forteresse, prétend comme plusieurs autres du reste descendre d'une nation scythe de femmes guerrières habiles au maniement de l'arc et de la lance. La légende dit que dans une guerre très ancienne contre un peuple venu de l'Occident, presque toutes furent exterminées. Quelques-unes échappèrent au massacre, et, fuyant vers l'est, atteignirent les hauts plateaux du Turkestan chinois où nous nous trouvons. En souvenir de ses ancêtres, les femmes kirghizes, un jour par an, deviennent maîtresses absolues de la cité. Elles portent les armes des guerriers, et ceci va qu'aux soins du ménage. Vous m'avez rencontré au milieu de la nuit parce que j'avais été employé jusqu'au soir, aux préparatifs de la fête. Ne craignez pas d'y assister. Cela vous intéresserait, vous ne courez aucun danger. » Armand secoua la tête. « En d'autres temps, nous aurions été heureux de nous réjouir avec les Kirghizes, mais aujourd'hui nous avons une tâche à remplir. Il nous faut retrouver la fille de mon ami enlevée par des cavaliers inconnus. » Il désignait l'anglais. Une larme roula lentement sur la joue de ce dernier. « Sa fille ?» reprit Dagrar à voix basse. Il semblait se consulter. « Mais tu sais quelque chose ?» interrogea la varède. L'homme avança les lèvres en signe de doute. « Mais parle donc !»« Non, je me trompe peut-être, et puis l'Amphara est un chef puissant qui ne pardonne pas une trahison. » Il regardait autour de lui avec crainte, comme si celui dont il venait de prononcer le nom eût pu l'entendre. Mais le Français n'était point disposé à se contenter d'une demi-explication. Il saisit Dagrar par le bras, et d'un ton bref, menaçant, qui rendait presque inutile la traduction par le teke. « Écoute, reprit-il, nous t'avons sauvé la vie, nous avons le droit de te la reprendre, et je jure Dieu que je n'hésiterai pas, si tu refuses de répondre. » Puis, s'adoucissant soudain, « Je menace, bon, et j'ai tort. Non, nous ne demandons pas ton concours, à quoi bon? Apprends-nous ce que tu soupçonnes, nous partirons, et jamais ton nom ne sortira de nos lèvres, fussions-nous captifs, attachés aux poutres des tortures. » Les Asiatiques sont clairvoyants. Dagrar comprit qu'il devait avoir confiance, et, sans hésitation, Je parlerai donc, mais tu te souviendras de ta promesse. Celle que tu poursuis, y a-t-elle les cheveux dorés comme les herbes des plateaux à la fin de l'été? Oui. Elle ne connaît pas la langue du pays. Non, mais où l'as-tu rencontrée? En sortant de la ville, dans la plaine, des guerriers avaient dressé leur tente autour d'un grand feu. Je m'en étonnais. Quand une femme s'élança à ma rencontre en disant des mots que je n'ai pas compris. Soudain, l'homme phara parut à son tour, força la femme à rentrer et m'ordonna de m'éloigner. Il attendait sans doute que tout dormît dans Béarsand pour conduire la prisonnière à sa demeure. Armand échangea un regard étincelant avec le gentleman. « Et qui est-ce, l'Amphara ? Il commande un 100 guerriers, il est riche. Il possède plus de 500 yaks, et puis il est savant, autant que nos médecins. Oh, il a été élevé loin d'ici, de l'autre côté des grands lacs, dans le pays du Père Blanc. » En Russie, souligna Rachmet, le tsar est le père blanc pour toutes les populations d'Asie. Lavarède l'interrompit. Il ne tenait pas en place. Aussi impatient que lui, Sir Burlington s'armait à la hâte. À peine laissèrent-ils au Tekke le temps d'indiquer à Dagrar en quel endroit était cachée la nacelle et les nombreux objets qu'ils y avaient abandonnés. C'était le prix du service rendu. Après un rapide adieu, ils se mirent en marche vers Béarsand. Ils repassèrent auprès de la fontaine chaude. Déjà, les grands vautours avaient dépecé le cadavre de l'ours gris. Après une nuit du terrible carnassier, il ne restait qu'un squelette auquel pendaient quelques lambeaux sanguinolents. Personne ne s'arrêta, tous avaient hâte d'atteindre la ville kirghize. Enfin, après avoir escaladé un monticule, ils l'aperçurent se développant dans un cirque formé par des collines peu élevées. Béarsand est une bourgade peuplée de 3 à 4 000 habitants, mais dans la steppe glacée de l'Asie centrale, elle représente l'un des centres les plus importants. L'anglais retint Armand. Nous allons pénétrer dans cette cité? Pourquoi non? Mais il me semble que c'est nous jeter dans la gueule du loup. La varenne se prit à rire. Hier, vos craintes auraient été fondées. Demain, elles le seraient encore, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Et comme le gentleman ouvrait la bouche. Inutile. La fête des Amazones commence, profitons-en. Sur ce, le Parisien se dégagea et se dirigea vers les premières maisons. Force fut à ses compagnons de le suivre. À leurs questions, il ne répondait que par monosyllabes. Il avait son idée, sans doute, mais le moment de l'exprimer ne lui paraissait pas venu. La distance qui les séparait des murailles diminuait. La ligne des fortifications coupée de tours carrées se dressait devant eux. Le Français alla droit vers une porte où des femmes montaient la garde, le casque en tête, le bouclier rond pendu à la ceinture. Voilà de solides commères, remarqua le jeune homme. N'étaient leurs cheveux nattés et quelques autres indices, on les prendrait pour de véritables guerriers. Le poste féminin fit mine d'arrêter les voyageurs, mais Rachmed, soufflé par le journaliste, s'enquit de la demeure du chef Lamphara. Aussitôt, ces dames esquissèrent leur plus aimable sourire, ouvrant la large bouche qui coupe leur visage aplati aux pommettes saillantes. Il vous faut traverser la place à Meraïkan, dit enfin l'une d'elles, mais vous devrez attendre car l'assemblée des Amazones est réduite en ce moment. Armand eut une exclamation joyeuse. L'assemblée des femmes, courons, mes amis. Mais pourquoi, hasarda Burlington. Pourquoi? Mais décidément, vous ne comprenez pas le parti que l'on peut tirer de l'émancipation des femmes. Saisissant Rachmed par le bras, le journaliste l'entraîna avec lui en parlant avec volubilité. Essoufflé, se maintenant à grand-peine à 10 pas en arrière, le père Dorette ne parvint pas à saisir un mot. Dans les rues, mesdames les Kirghizes se pavanaient majestueusement, escortées de leurs époux qui, ce jour-là, étaient chargés de tous les objets encombrants, depuis les larges miroirs chinois jusqu'aux petits enfants trop jeunes pour marcher. Ces promeneurs lançaient des regards curieux aux étrangers, puis reprenaient leur conversation commencée. Enfin, la marraine et ses compagnons débouchèrent sur la place à Meiraikan. Un spectacle étrange les y attendait. Assises sur des blocs de pierre disposés suivant une circonférence, des femmes, engoncées dans leur fourrure, écoutaient une de leurs compagnes. Celle-ci, juchée sur un siège plus élevé, parlait d'une voix gutturale dure à l'oreille. Les autres opinaient gravement de la tête, en fumant un petit coup des pipes au long tuyau couvert d'ornements de métal. Sans souci d'interrompre l'orateur, la marraine pénétra dans le cercle. Une clameur de stupéfaction s'éleva aussitôt. Debout, menaçante, les Kirghizes semblaient prêtes à s'élancer sur l'intrus. De mémoire d'Amazon, jamais un homme n'avait osé troubler le Patitch, reproduction du conseil des chefesses dans la tribu mère. By God, qu'avez-vous là ? S'écria l'Anglais en rejoignant le Parisien. Celui-ci, aussi calme qu'un conférencier à la salle des Capucines, se tourna vers Archmen et doucement « Va !» dit-il. Aussitôt, l'interprète commença de haranguer l'assistance dans une langue inconnue du gentleman. Il répétait la leçon que venait de lui apprendre la Varède. Mesdames, clama-t-il, si nous avons troublé la délibération de vos puissantes seigneuries, c'est pour vous signaler un crime de lèse coutume commis par un homme de cette ville. » Morlitton ne comprit pas le sens des paroles, mais il constata que l'assemblée devenait attentive. « En ce jour, continua le téqué, toute femme est libre. Aucune ne peut être retenue contre sa volonté. « Ouah, ouah !» répondirent des voix nombreuses. Elle dit « oui !» et glissa rapidement le guide à Armand. Puis, reprenant le dialecte des plateaux, « Pourtant, une jeune fille est prisonnière à Béarsand. Voici son père et son fiancé. Ils vous demandent justice. Vous la leur accorderez, vous qui, à travers les siècles, perpétuez le souvenir de vos vaillantes ancêtres. » Un hurrah frénétique ébranla l'atmosphère. Les Amazones voulaient connaître l'endroit où était enfermée Missa Aurette. Chez le chef Lamphara, répliqua Harkman. À la maison de Lamphara. Et à ce cri, toutes les femmes quittèrent l'enceinte du Patitch et, se formant en colonne serrée, se mirent en marche vers le lieu désigné. Où vont-elles ? Interrogea l'Anglais. Mais délivrez votre chère fille, mon bon monsieur. Mais comment, mais pourquoi ? Mais parce que nous profitons des circonstances. On vous expliquera plus tard. Pour l'instant, reprenons Miss Horrette à son ravisseur et fuyons à toutes jambes cette cité demain, il n'y ferait pas bon pour nous. À la même heure, Horrette rêvait. Une immense tristesse pesait sur elle. Elle se revoyait attachée au travers de la selle de l'Amphara, emportée dans la nuit par le galop furieux du coursier turcoman. Puis la halte du jour et la nuit revenue, la course infernale recommençant. Et avec un serrement de cœur, elle songeait que chaque bond de sa monture l'avait éloignée de son père et d'Armand. Un instant, elle avait espéré. Parmi les tentes dressées au milieu de la seconde nuit, un chariot était passé. Elle avait couru au devant du conducteur, cherchant un défenseur dans le voyageur inconnu, mais alors Son maître s'était dressé devant elle brutalement, et il l'avait ramenée à la tente où elle reposait, et dans l'ombre, le bruit du chariot s'était éteint peu à peu. Plus tard, juché de nouveau sur un cheval, son escorte l'avait conduite dans une ville étrange aux maisons largement espacées. Elle se souvenait d'avoir passé sous un arc triomphal en pierre aux formes bizarres. Puis sa monture s'était arrêtée au milieu d'une cour. Invitée à mettre pied à terre, la captive avait été enfermée dans une pièce basse. Et dans son esprit, au désespoir d'être séparée de ses amis, se joignait la crainte de voir face à face celui qui la tenait prisonnière. « Que voulait cet homme ?» Question menaçante. Nulle jeune fille n'y répondrait, mais toute frissonnerait devant l'interrogation. Horeb se représentait le guerrier, asiate à peine entrevu, marchant vers elle, le regard dur, le geste menaçant. La tête cachée dans ses mains, elle se demandait quelle attitude prendre en présence de cet ennemi. Une voix d'homme la fit tressaillir. Elle leva les yeux. Le chef Lamphara était devant elle. Il avait fait sa toilette. La tunique ornée de broderies, les bottes de cuir rouge, le kandjar à fourreau d'argent passé dans la ceinture, indiquaient son désir de plaire. Courbé respectueusement, les mains croisées sur la poitrine, le chef parlait. Des syllabes sonores et douces coulaient de ses lèvres, mais leur sens échappait à la prisonnière. Lamphara s'en aperçut. Il se tut un moment, parut chercher, puis reprit la parole en anglais. La jeune fille fit un geste de surprise. « Vous comprenez maintenant, » dit-il souriant. « Heureusement, au pays du Père Blanc, on enseigne non seulement le russe, mais encore les autres langues européennes. Ne répondez pas, mademoiselle, avant de m'avoir entendu. Là-bas, à Moscou, en étudiant, j'ai appris la beauté comme la comprennent ceux de votre race. Entrer ici, les jeunes filles m'ont paru lourdes, disgracieuses, disons le mot hideuses. Riches, toutes convoitaient ma main, je les ai dédaignées. Pourquoi ? Parce que je me souviens de l'Européenne avec sa grâce, son esprit et sa tyrannie. Par une légère moue, Horeb indiqua que cela-là lui était parfaitement égal. Elle était rassurée, l'attitude de l'Asiate n'était rien moins que menaçante. « J'arrive au but, » reprit celui-ci. « J'étais à la chasse avec quelques fidèles lorsque j'ai aperçu votre ballon feu. Mes compagnons croyaient à une apparition fantastique, mais moi, j'avais reconnu un aérostat. « Des gens d'Europe, pensais-je. La curiosité me prit. J'assistais à la descente, et sur vos pas, je me glissais jusqu'à l'entrée de la caverne, et là... » Il s'interrompit un instant et continua d'une voix étranglée. « Là, je vous vis. Dans ce pays où je dois vivre pour conserver la fortune et le rang légué par mes ancêtres, vous êtes montré à moi image vivante de mes regrets. J'ai épargné vos compagnons me contentant de dérober le trésor que je convoitais. Puis, s'exaltant par degrés, je suis un chef redouté et respecté. Je possède de nombreux yaks et d'immenses plaines. Nul coursier ne résiste quand mes genoux pressent ses flancs et jamais ma balle n'a manqué son but. « Deviens ma compagne, jeune fille. Tous se courberont devant toi. On ne regarde pas en face l'épouse de l'Amphara. » Un feu sombre brûlait dans les prunelles du khan. Ce nomade qui, depuis des années, vivait avec un songe rapporté d'Europe, empruntait à sa manie quelque chose d'inspiré. Les craintes d'Odorette renaissaient. ce personnage étrange au mouvement bizarre, ce Khan barbare, compliqué d'incivilisé, était inquiétant. L'Amphara se méprit à son hésitation. « Ne prenez pas encore de décision, je vous en prie. Je sais que vos compatriotes ne veulent pas être contraintes. J'attendrai. » Sur ces mots, il sortit. Resté seul, Allred fondit en larmes. Sous l'apparente douceur du Kirghiz, elle avait senti sa volonté implacable. Comment résisterait-elle ? Hélas, perdue au centre du massif asiatique, séparée de ses compagnons que rien ne mettrait jamais sur ses traces, était-elle condamnée à finir ses jours à Béarsand ? Que de projets fous se présentèrent à son esprit, que de résolutions désespérées elle abandonna une à une. Tout à coup, un bruit confus arriva du dehors. Curieuse, la jeune fille courut à la fenêtre, l'ouvrit et regarda. Dans la cour, le chef Lamphara discutait avec une centaine de femmes, au milieu desquelles se démenaient Merliton, Lavarel et Rachmed. « Monsieur Armand !» s'écria Aurette, « sauvez-moi !» Une grande clameur répondit à cet appel. L'Anglaise vit le chef faire un geste de rage et tout le groupe s'engouffrait dans la maison. Un instant plus tard, elle était libre. Elle marchait entre son père et le jeune homme, une illumination de joie dans les yeux. Elle interrogeait, mais que s'est-il passé ? Mais Lavarède l'interrompit. « plus tard, il s'agit de quitter cette ville. À minuit, plus rien ne pourrait nous tirer des griffes de l'Amphara. » Sur son conseil, elle demanda toujours par la voix de Ahmed aux femmes du Patitch empressées autour d'elle de lui permettre de continuer son voyage. Celles-ci, enchantées de voir partir cette étrangère qui avait fait battre le cœur insensible du riche Lamphara, ne résistèrent pas à sa prière. Elles mirent même à la disposition de la petite troupe des yaks et des vivres. Elles y ajoutèrent, non sans étonnement, et sur la prière de l'Anglaise, un énorme sac rempli de tous les débris de poterie, de vaisselle, de verre qu'elles purent se procurer. C'était encore Armand qui avait désiré ce singulier cadeau. Mais pourquoi changer nos bêtes de ce fardeau inutile ? Fit le gentleman. Inutile, je le souhaite, mais je crois, moi, qu'il nous rendra un grand service. Lequel ? Vous le verrez. Escortés par les Amazones, les voyageurs quittèrent Béarsand, juchés sur 4 yaks vigoureux. L'Amphara les suivait de loin. Lorsqu'ils eurent pris congé des femmes kirghizes, le Khan fit signe à l'un de ses serviteurs et d'un ton bref « Va, ne perds pas leurs traces. Sitôt cette damnée fête terminée, je partirai avec mes cavaliers et par Tamerlan, la rose d'Europe m'appartiendra. » L'homme se courba et d'un pas élastique s'élança à la poursuite d'Aurette. Cependant, Lavarède pressait ses compagnons. « Mes chers amis, poussons nos montures, nous ne serons sûrés que dans les montagnes que vous apercevez là-bas, à l'ouest. »« Mais quel danger craignez-vous donc ?» questionna Merliton, absorbé dans la contemplation de sa fille. « Presque rien, mais le chef Lamphara, lié à cette heure par une coutume que je qualifierais d'admirable, car elle nous a servi, ne le sera plus ce soir. » Il voudra sans doute reprendre le trésor que nous lui avons enlevé. » Le visage de l'Anglaise exprima la terreur. Armand s'en aperçut. « Oh, rassurez-vous, il ne réussira pas, car à la nuit nous aurons traversé cette plaine unie où l'avantage resterait forcément au nombre. » Et tous, fouaillant leurs montures, hâtèrent leur marche, vers le point désigné par le français. Chapitre 24 du Tarim à la Moudaria. Au déclin du jour, les fugitifs atteignirent les premiers contreforts de la barrière de granit qui ferme à l'occident la plaine de Béarsand. Burlington proposa de s'arrêter. Les yaks donnaient des signes de fatigue, leurs jarrets nerveux avaient perdu de leur énergie. Mais le Parisien ne voulut rien entendre. « Oh, plus haut, répétait-il, plus haut, nous serons attaqués au point du jour !» Et de son kama tibétain, il piquait la croupe des animaux auxquels la douleur rendait une vigueur passagère. Enfin, les bêtes surmenées se couchèrent sur un étroit plateau à l'entrée d'un défilé. « Oh, parfait !» dit la Varenne. « Ici, nous aurons l'avantage du terrain. Dînons et dormons. » On lui obéit. Telle était la lassitude générale que, sous les tentes de feutre, l'inquiétude ne tint personne éveillé. Le lendemain, dès que le soleil montra son disque rouge à l'horizon, Armand se leva et se dirigea vers le bord du plateau. Mais au-dessous de lui, un voile d'ombre couvrait encore la plaine que les rayons obliques de l'astre n'atteignaient pas. Le froid était pénétrant. Le jeune homme se mit à marcher pour se réchauffer. Une demi-heure environ, il pratiqua cet exercice, tournant souvent la tête du côté de Béarsand. Continuant son ascension vers le zénith, le soleil lançait ses flèches d'or dans les vallons, chassant les ténèbres de leur dernière retraite. La plaine devint visible. Les yeux du journaliste parcoururent sa surface aride, parsemée d'éblouissantes plaques de neige, et soudain, son regard se fixa. Au loin, dans une buée, quelque chose se mouvait, avançant avec rapidité. Cela n'avait pas de forme précise, mais Armand ne s'y trompa pas. Il courut aux tentes et, secouant les dormeurs, « Alerte ! Les voici !» En un instant, ses compagnons furent sur pied, les yaks chargés, et tous s'engagèrent dans le défilé. C'était un passage étroit, une déchirure du granit causée par quelques crises géologiques. Parfois, les bêtes de somme avaient juste assez de place pour se glisser entre les murailles abruptes. Le sol accusait une pente très forte. Un détour du chemin, la gorge devint corniche, courant le long d'une falaise perpendiculaire et dominant un abîme. Ah, l'endroit est bon, murmura la Varenne avec un sourire, et s'adressant à Achmed, le sac à la vaisselle cassé, je vous prie. Le guide le lui passa, et le Parisien le vida méthodiquement de façon à couvrir une dizaine de mètres de terrain des fragments hétérogènes qu'il contenait. « Mais quelle signifie cette cérémonie ?» hasarda l'Anglais, qui avait suivi l'opération avec surprise. « Oh, vous en apercevrez tout à l'heure pour le moment, allez en route. Avant un quart d'heure, les guerriers de l'Amphara seront ici. » En effet, le bruit éloigné du galop des chevaux montait jusqu'aux voyageurs. Ils se remirent en marche. Le chemin, obéissant aux caprices du rocher, se déroulait sinueusement. La petite troupe atteignit un point d'où l'on dominait l'endroit où elle avait fait halte. Armand étendit la main. « Arrêtons-nous !»« Mais les Kirghizes ! Oh, ils ne parviendront pas où nous sommes !» « Regardez en bas, vous allez rire !» Les cavaliers ennemis s'engageaient sur la corniche. En tête se trouvait l'Amphara. Il aperçut les Européens et les montra à ses hommes. Un hurlement de triomphe fit gronder les échos de la montagne. Orette était venu d'une pâleur de cire. « Ne craignez rien, redit Armand, ils ne passeront pas !» Avec une témérité inouïe, les cavaliers maintenaient leurs montures au trot. Soudain, les chevaux s'arrêtèrent, produisant une bousculade. Deux bêtes perdirent pied et dévalèrent la pente, entraînant leur maître dans une chute vertigineuse. L'Amphara, immobilisé comme ses soldats, s'agitait furieusement sur sa selle et peronnant son cheval avec rage. Peine inutile, l'animal semblait pétrifié. La marraine fit entendre un éclat de rire. « Vous voyez, ceci est un souvenir de ma vie militaire. Pour arrêter la cavalerie, parsemez la route de tessons de bouteilles. Dans la traversée d'un village, jetez dans la rue toutes les chaises, pas un cheval ne passera. En Afrique, les zouaves ont obtenu le même résultat, avec des balles de plomb coupées en quatre. » Tout en parlant, il armait son fusil. Non, ce n'est pas le tout d'empêcher le mouvement en avant de l'ennemi, il faut l'obliger à battre en retraite. Il fit feu. Un homme tomba. Marlyton et Rackman saisirent leurs armes, et durant quelques minutes, une grêle de balles s'abattit sur la bande kirghize. Déjà démoralisés par le brusque arrêt des chevaux, dont la cause leur échappait, les guerriers tournèrent bride, laissant sur le sol une douzaine de morts. Seul le chef était resté. Abandonné des siens, il ne voulait pas céder. Sautant à bas de sa monture, il se mit à gravir la pente à pied. Tous le regardaient avec une vague tristesse. L'homme courageux qui marche à la mort émeut ceux-là même qui vont le frapper. Armand s'était placé devant la jeune fille, la couvrant de son corps. Arrivé à 50 pas, l'Amphara épaula, visant lentement. Le Parisien s'empressa de l'imiter. Les deux détonations se confondirent, et le Kirghiz, étendant les bras, tomba sur les genoux. Mais, par un brusque effort, il se releva, fit de la main comme un geste d'adieu et se renversa en arrière dans le vide. Et tandis que son corps roulait, rebondissant de rocher en rocher, les voyageurs portèrent instinctivement la main à leur coiffure pour rendre hommage à un brave. « Belle mort !» murmura simplement Marlyton, « mais complètement inutile !» Cet Asiate n'était pas un homme pratique. Sur cette raison funèbre, bien anglaise, la petite troupe continua son ascension. À la nuit, elle atteignit le sommet de la montagne, et la marraine montra avec satisfaction à ses amis la formule sacrée des bouddhistes, gravée sur un bloc de granit. Om Mane Padme Hum. Cela, dit-il, vaut un poteau indicateur. J'y lis que nous sommes dans le massif des monts célestes, où ces paroles que des millions de fidèles répètent chaque jour se trouvent fouillées dans le roc un nombre incalculable de fois. Il existe une confrérie de lamas qui n'a d'autre fonction que d'en couvrir les sommets. Non loin de là, d'ailleurs, les voyageurs découvrirent un obos ou amas de pierres commémoratifs, que les gens du pays, de même que les anciens Gaulois et les Arabes, élèvent aux endroits qu'il est important de reconnaître. Tout le monde dîna gaiement. Le lendemain, on descendait le versant opposé des hauteurs et on atteindrait sans doute un pays moins désolé. Cet espoir devait être déçu. Durant plusieurs semaines, ils errèrent sur un haut plateau, n'ayant pour boisson que la glace fondue, pour combustible que l'argol, c'est-à-dire la fiente des yaks. Péniblement, ils parcouraient quelques kilomètres, puis ils devaient s'arrêter, terrassés par le mal des montagnes. Les jambes lasses, douloureuses, la respiration gênée, ils se glissaient le soir venu sous leur tente et s'endormaient d'un lourd sommeil d'où ils sortaient plus fatigués encore. Et toujours s'étendait devant eux le même paysage de rochers en blocs, en aiguilles, séparés par des flaques gelées. Paysage si constamment semblable à lui-même qu'il était presque impossible de marcher dans une direction donnée. Tous supportaient courageusement ces épreuves que l'expérience de Rachmen adoucissait un peu, mais Orette, plus faible que ses compagnons, dépérissait à vue d'œil. Ses joues se creusaient, ses pieds meurtris ne la portaient qu'au prix de souffrances aiguës. Il était facile de prévoir qu'avant peu elle ne pourrait continuer le voyage. Quand un rayon de soleil attiédissait l'atmosphère, la jeune fille était hissée sur l'un des yaks, mais ses éclaircies étaient rares. À tout autre moment, par le froid rigoureux qui sévissait, cette immobilité relative lui eût été fatale. Armand se multipliait, éclairant la route, encourageant ses amis, trouvant de douces paroles pour réconforter l'anglaise. Elle le remerciait d'un sourire, mais le découragement la minait sourdement. Et lui se désolait. La solitude permanente oppressait la jeune fille. Elle avait peur de ne pas sortir de ce pays affreux. Et comme si la situation des voyageurs n'était pas assez critique, un malheur plus grand que tous les autres s'abattit sur eux. Un soir, dans une étroite vallée abritée du vent glacial de l'ouest, ils dressaient les tentes. Les yaks, encore chargés, étaient à quelques pas. Tout à coup, avec des beuglements éperdus, les animaux, pris d'une peur soudaine, s'enfuirent au galop, gravirent la pente du ravin et disparurent. Dans leur panique, ils emportaient les provisions de bouche et les munitions de leur maître. Sir Merlitton voulait s'élancer à leur poursuite. Rachmen s'y opposa. « Vous vous égareriez, dit-il, et l'homme perdu dans les ténèbres est un homme mort. Il doit marcher sans cesse. » S'il s'arrête, l'engourdissement le cloue sur place, ses paupières se ferment malgré lui et il s'endort pour ne plus se réveiller. Mais alors que ferons-nous? Nous ne dînerons pas, et demain nous nous mettrons à la recherche de nos bêtes. Encore que les estomacs criassent famine, il fallut se rendre au raisonnement du Tekke. Tous comprenaient le danger des recherches nocturnes par 30 degrés de froid. Ils se couchèrent de méchante humeur. Au matin, on se mit en chasse, mais vainement, on battit le pays, nulle part, on ne retrouva trace des yaks. Sous l'influence de la terreur, ces animaux parcourent parfois des distances énormes. Ils devaient être bien loin à cette heure. La tête basse, les voyageurs revinrent à leur campement. De l'argol recueilli en route leur permit d'allumer un feu autour duquel, mélancoliques, ils se groupèrent. Ils en avaient besoin. Privés de nourriture depuis 24 heures, ils souffraient doublement des rigueurs de la température. Ils restaient devant la flamme, immobiles, l'œil vague, enfoncés dans des réflexions pénibles. Toute pâle prise de fièvre aurait semblait oublier la présence de ses amis. Par moments, ses dents claquaient. Peu à peu, ses yeux devenaient inquiets. Une tache rouge montait à ses joues. Près d'elle, Merlitton et Lavarède la couvaient du regard, sentant, avec une appréhension inexplicable, venir la maladie contre laquelle ils étaient désarmés. Déjà affaiblie par un voyage pénible, la jeune fille était sans force pour résister aux privations. Ce soir-là, ses compagnons durent la porter dans sa tente. Ses jambes pliaient sous elle. Les hommes eux-mêmes avaient conscience que leur énergie diminuait. Hein? Si cela dure encore un jour, personne de nous ne reverra l'Europe. » Ce fut le gentleman qui prononça ces paroles découragées. Armand eut un accès de colère. Il reprocha à l'Anglais de jeter le manche après la cognée. Pourquoi s'abandonner alors que les circonstances critiques exigeaient le concours de toutes les volontés? Mais sa voix véhémente ne troubla aucunement son interlocuteur. Avec le flegme dont il ne se départait jamais, il se contenta de répondre « Cher monsieur, nous n'avons rien mangé hier, pas davantage aujourd'hui. Je me sens glacé jusqu'au moelle. Dans 6, 8 ou 10 heures, la fièvre me couchera auprès de ma fille et tout sera fini. Si j'en éprouve du chagrin, croyez que c'est uniquement pour elle, la pauvre enfant. » Les deux hommes essuyèrent furtivement une larme. Mais secouant cet instant de faiblesse, la marraine reprit. Oh, rien n'est désespéré, ces sottes bêtes ont emporté nos provisions, mais nous avons nos armes. Votre fusil seul est chargé, monsieur la marraine, et il vous sera aussi inutile que les nôtres. Qu'y a-t-il à chasser ici? Des corbeaux, toujours hors de portée, des loups qui demeureront invisibles tant que la faim ne nous aura pas réduits à l'impuissance, et parfois un yak sauvage qu'un coup de feu n'abattrait pas. » Un bruit de voix retentit dans la tente occupée par Laurette. Armand, suivi de l'Anglais, y courut. La jeune fille parlait. Assise, ayant repoussé les vêtements dont son père l'avait couverte, elle montrait un point dans le vide. Tout son être raidi tendait vers ce lieu que son imagination évoquait. Là, l'eau, les fruits magnifiques, il fait chaud, encore une de ces poires exquises. Le délire, murmura le Français avec accablement. Brusquement, il sortit, prit son fusil et s'approchant de Rachmed. Pour combien d'heures avez-vous encore de combustible? Oh, jusqu'au jour. Bon, alors transportez le foyer sur un de ces hauts rochers qui dominent la vallée. Je m'arrangerai de façon à ne pas le perdre de vue. Vous vous éloignez dans l'obscurité? Oui. Les loups aussi doivent être affamés, et la nuit, ils oseront peut-être attaquer un homme seul. Mais c'est de la folie! Possible, mais j'ai chance aussi de remporter de la venaison. Et puis est-ce la sagesse d'attendre ici que la faim et le froid aient accompli leur œuvre? Le tekke fit un mouvement. Je vous accompagne. Non, restez à la garde du feu. Notre compagnon, lui, veille sa fille. Et ayant serré la main du guide, Armand s'enfonça dans les ténèbres. Quelques minutes plus tard, à la cime d'une aiguille rocheuse, une flamme claire s'élevait. Le tekke éclairait la marche du chasseur. Longue fut la nuit. Le gentleman agenouillé auprès d'Orette suivait avec une angoisse grandissante le progrès du mal. La jeune fille ne le reconnaissait plus. Plongée dans un état comateux, elle n'en sortait que par de brusques accès de délire. Mais ses forces s'épuisaient visiblement. Les crises devenaient moins longues et moins fréquentes. Les sources de la vie se tarissaient peu à peu. En vain, Merleton entassait les couvertures. La température de la jeune fille s'abaissait. La mort étendait sur elle sa main décharnée. Au petit jour, la marraine revint sans avoir pu tirer la seule balle qui lui restait. Nul être vivant n'avait passé à sa portée. À 2 kilomètres, le Français avait rencontré une rivière gelée au lit encaissé. Des peupliers peu élevés l'abordaient. Un instant, il avait espéré. Une bande de yaks sauvages s'était montrée sur l'autre rive, mais sans doute les animaux avaient éventé l'homme car il s'était enfui précipitamment. Ah, dit-il à Ahmed avec une rage douloureuse, si j'avais pu abattre l'une de ces bêtes, nous étions sauvés ensemble. Le teke l'interrogea du regard. Oui, continua Armand, une rivière descend nécessairement vers une plaine. Pourvu de nourriture, nous aurions pu, avec les peupliers, assembler une sorte de radeau, de traîneau plutôt, et nous abandonnant à la pente, sortir de cet affreux désert de montagne. Le guide se redressa, les yeux brillants. C'est un moyen dangereux, il est vrai, mais qu'importe, pourquoi ne pas le tenter? Ah, mais c'est elle que j'aurais voulu sauver. Pensif, il gagna la tente d'Orette. Il rendit compte au gentleman de l'insuccès de sa tentative. Celui-ci haussa les épaules et du geste désigna sa fille. Une pâleur livide couvrait les yeux de la mourante. Ses paupières baissées avaient pris des tons bleuâtres. De ses narines déjà pincées s'échappait avec peine un souffle haletant. Et comme ils étaient là, ne trouvant plus une parole, hébétés à l'idée du dénouement fatal, inévitable, un son étrange retentit au dehors. Grave, sonore, on eût dit un appel de trompe. D'un bond, Armand sortit de la tente, il se heurta à Ahmed. Le cri d'un yak, n'est-ce pas? Oui. Mais où cela? La main du guide s'étendit vers l'ouest. Là-bas, nous sommes sous le vent, peut-être sera-t-il possible de surprendre l'animal. Avec des précautions infinies, les deux hommes gravirent la pente. En haut, le teke se coucha de façon que sa tête dépassât à peine la crête de l'escarpement. Le Parisien fit de même. Un tressaillement parcourut le corps des chasseurs. À 50 mètres d'eux, 5 yaks étaient groupés. Un peu à l'écart, un adulte, reconnaissable à son épaisse crinière, montait la garde. « Visez bien, dit Ahmed, notre existence à tous dépend de votre coup de fusil. » Labarède le savait bien. L'émotion faisait trembler sa main, il se reprit à deux fois pour épauler. Se raidissant, il parvint à dompter ses nerfs, visant lentement le yak isolé. La détonation éclata, répercutée comme un coup de tonnerre par les échos de la montagne. Dans la fumée, les chasseurs avaient sauté sur la crête. Les bœufs se sauvaient avec des mugissements fous, laissant en arrière leurs sentinelles qui s'épuisaient en vains efforts pour les suivre. « Il a une jambe brisée !» hurla le teke. « Au couteau, il est à nous !» Ainsi que les bêtes fauves, tous deux se ruèrent vers l'animal blessé. Celui-ci, comprenant l'impossibilité de la fuite, fit tête à ses adversaires, leur présentant ses cornes menaçantes. Dans la toison épaisse qui couvrait son front, ses yeux brillaient de lueurs sanglantes. « Attention !» recommanda Ahmed. « Prenons-le en flanc, vous à droite et moi à gauche. » Tout en courant, le Français exécuta le mouvement commandé, et bientôt le yak, impuissant à se défendre, roula sur le sol avec un beuglement d'agonie. Le teke se coucha sur lui, et appliquant ses lèvres sur une de ses blessures, il but avidement le sang qui s'en échappait. Armand le repoussa brusquement. « Allez, pensez à celle qui va mourir si nous tardons. »« Oh, pardonnez-moi, dit le guide honteux, j'avais tellement faim. » En un moment, le lourd cadavre fut dépouillé. Après avoir chargé son compagnon de découper la chair de leur gibier, la varenne, emportant la peau chaude encore, vola vers la tente d'Orette. Écartant le gentleman ébahi, il jeta au loin les couvertures de la malade. « Mais que faites-vous ? » s'écria l'Anglais. « Mais je la sauve, aidez-moi !» Fébrilement, il dépouillait la jeune fille de ses vêtements, mettant à nu sa gorge de vierge. « Mais ce n'est pas convenable !» hasarda encore Merleton. « Préférez-vous qu'elle meure ?» Et sur cette réplique brutale, il termina son opération. Après quoi, il enroula Miss Red dans la peau sanglante et tiède et la recoucha mollement. Alors il se tourna vers l'Anglais. Ceci est un procédé pour ranimer les gens que le froid a terrassés. J'ai vu cela quand j'étudiais la médecine. Je m'en suis souvenu tout à l'heure en apercevant le yak et je l'ai appliqué. Maintenant un peu de nourriture et je réponds de notre compagne. Il disait vrai. Le soir, ranimée par quelques cuillerées de jus de viande, la jeune fille souriait à son sauveur. La fièvre avait disparu. Le sang coulait plus chaud dans ses veines. Elle bavardait, faisait déjà des projets d'avenir. On allait construire le radeau imaginé par le Français et on descendrait le cours du fleuve solidifié. Monsieur Lavarette gagnerait son pari et ensuite... Là, elle s'arrêta brusquement. Ses paupières battirent. Elle avait été sur le point de dire toute sa pensée, de parler de son mariage, but délicieux de ce périlleux tour du monde où elle avait appris à aimer. Armand lui tendit la main, elle y mit la sienne, ferma les yeux et tout doucement s'endormit dans le grand silence du désert. Dans le sommeil même d'une étreinte inconsciente, elle retenait près d'elle son amie. Dès le lendemain, les voyageurs purent transporter leur campement au bord du cours d'eau signalé par le Parisien et ils se mirent aussitôt à l'œuvre. L'abattage des peupliers fut pénible. Il leur fallait les scier avec leurs couteaux tibétains, seuls instruments tranchants qu'ils eussent à leur disposition. Heureusement, ces arbres, remplis à l'intérieur d'un aubier sans consistance, ne résistaient pas énormément à la morsure de l'acier. Il ne leur fallut cependant pas moins d'une semaine pour établir un plancher de 6 mètres de long sur 4 de large. La peau du yak, découpée en minces lanières, leur avait permis d'assembler les pièces de bois. De longues perches fixées de chaque côté du singulier véhicule devaient traîner sur la glace et servir à le diriger. Enfin, le radeau fut mis à flot, selon l'expression d'Orette, les tentes anciennes et les provisions nouvelles solidement arrimées à sa surface. Tous y prirent place. Le journaliste et Ahmed s'étaient chargés de la manœuvre des perches directrices. Et la descente commença. Lente d'abord, sur une pente insensible, elle s'accéléra bientôt dans une série de rapides. Le traîneau improvisé filait avec la vitesse d'une flèche entre les rives escarpées, et les conducteurs avaient toutes les peines du monde à éviter les rochers trouvant la surface glacée qui eussent brisé comme verre l'appareil. Au soir, profitant d'une rampe plus douce, les amis poussèrent le plancher de bois vers le rivage et l'y amarrèrent. Déjà le paysage était moins dénudé. Des silhouettes d'arbres se profilaient sur le ciel. Pour tous, c'était une joie de voir les branches noires dépouillées de feuilles. Le végétal remplaçant le rocher, c'était le printemps succédant à l'hiver. Lavarède même réédita le mot fameux « des arbres, donc des hommes ». Sur toutes les figures, la phrase amena le sourire. « Cela vous fera plaisir de retrouver des semblables, » continua le journaliste. « Voilà l'influence solitaire du désert. Dans les villes, on ne songe qu'à les éviter. Voyez-vous, le désert bien appliqué supprimerait les procès et les tribunaux. Il suffirait d'une bonne loi ainsi conçue, tout quinteux serait condamné à un mois de haut plateau. Ce serait le triomphe de la bienveillance universelle. » Le jeune homme avait repris toute sa gaieté, et l'Anglais lui-même applaudit à son paradoxe. Durant 2 jours, le voyage continua sans autre accident que de temps en temps la nécessité de traîner le radeau ou l'insuffisance passagère de la pente. Pendant les dernières heures, on avait filé entre des rives couvertes de forêts. La nuit, le thermomètre marquait seulement 15 ou 16 degrés au-dessous de zéro, et Miss Aurette en plaisantait, affirmant que la chaleur la faisait souffrir. Le radeau était en bon état, et les lanières de peau résistaient merveilleusement. Ce matin-là, la Varenne affirma que la journée ne s'écoulerait pas sans que l'on rencontrât une habitation. Aussi, l'on partit très allègre. L'allure modérée du véhicule accusait une faible inclination de la surface gelée. Évidemment, les voyageurs atteignaient le pied de la montagne. Vers 11 heures, cependant, un dernier rapide se présenta. On s'y engagea sans crainte. À perte de vue, le fleuve élargi présentait une surface unie. Le radeau, ainsi qu'un cheval qui s'échauffe, glissait de plus en plus vite, sans une secousse, sans un chaos. Les passagers n'avaient conscience de la rapidité de leur course que par le vent qui les fouettait avec violence et le galop échevelé du rivage, fuyant en sens inverse. Soudain, la Varenne poussa un cri rauque. Tous les yeux se portèrent vers lui. Sa main s'étendit vers l'horizon. Ses amis regardèrent et leurs cœurs cessèrent de battre un instant. Une ligne nette coupait le fleuve dans toute sa largeur, et bien loin, beaucoup plus bas, on apercevait le chemin de glace qui se continuait. « Une chute !» murma Merliton. Se cramponnant au madrier, Armand et le guide s'étaient traînés jusqu'aux perches de direction pour tâcher de gouverner vers la berge. Mais à peine les avaient-ils saisis qu'un craquement sec se fit entendre. Sous la formidable poussée de la pente, elle s'était brisée net. Le traîneau éprouva une secousse, oscilla un instant, puis poursuivit sa course rigide de train lancé à toute vapeur. La catastrophe allait se produire. Rien ne pouvait l'empêcher. Le frêle radeau et son équipage seraient précipités, réduits en poudre. Les yeux dilatés par l'épouvante, tous regardaient la ligne barrant le fleuve qui, par une illusion d'optique, paraissait venir à toute vitesse à leur rencontre. La distance diminuait. Comme grisés par la rapidité folle, emportés par l'entraînement du rêve qui les conduisait à l'abîme, les voyageurs ne parlaient plus, ne pensaient même plus. La voix d'Armand se leva encore. « Cramponnez-vous au radeau !» 200 mètres restaient à franchir. Il fallut 2 secondes. Le traîneau atteignit la chute, la dépassa et décrivit une large courbe et retomba dans le vide. Les mains crispées au tronc de peuplier, tous fermèrent les yeux attendant la mort. Mais au lieu du choc épouvantable qu'ils craignaient, ils ressentirent une secousse relativement légère, tandis qu'une pluie tiède s'abattait sur eux. Ils promenèrent autour d'eux des regards effarés. Leur radeau flottait sur un petit lac d'eau libre.
« Mais qu'est-ce que cela signifie ?» demanda le gentleman en retrouvant l'usage de la voix.
Ce fut la Varenne qui répondit.
Une source d'eau chaude entretient ici un bassin qui ne gèle pas. En effet, du rocher jaillissait au milieu d'épaisses vapeurs un jet d'eau gros comme le corps d'un homme. Et comme les amis du français reprenaient leurs esprits, des appels retentirent sur le rivage. Deux hommes, sortis d'une hutte grossière faite de troncs non écorcés, ailaient les voyageurs. C'étaient des chasseurs, de braves gens, qui passaient la plus grande partie de l'année dans ce pays perdu. La hutte était leur quartier général. Ils avaient choisi cet emplacement à cause du voisinage de la source chaude qui, dans un rayon de 50 mètres, entretenait une douce tiédeur. Au cœur de l'hiver, ces cénobites arrivaient à récolter des salades. Ils firent fête aux voyageurs qui, par l'intermédiaire de Rachman, apprirent qu'ils se trouvaient dans le pays de Wrakhan, au Auckland, et que leur fleuve était l'Oxus des anciens devenus maintenant l'Amudarya. La marraine appela à son aide son érudition très oubliée pendant les dernières semaines. « Oh, l'Oxus, dit-il, traversait autrefois le lac d'Aral et se jetait dans la Caspienne. Depuis son lit s'est comblé entre ses deux nappes et il finit dans le lac. » Et Marlton, en bon anglais, déclara aimer beaucoup ce fleuve. Cela l'ennuyait de couler en territoire russe, affirma-t-il. Après une nuit excellente passée dans la maison de bois, les passagers du radeau dirent adieu à leurs hôtes. Oh, nous savons où nous sommes, dit Aurette, mais nous ignorons où nous allons. À Tchadjoui, répondit le journaliste avec un sourire. Vous en connaissez le chemin? Le chemin, il va nous y porter lui-même. C'est le fleuve. Il paraît qu'à une trentaine de lieues d'ici, la Amudarya doit être libre de glace. Heureusement, nous avons une voiture-bateau qui nous conduira à la ville Sarté de Tchadjoui. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Interrompit le gentleman. Oh, c'est une station du chemin de fer transcaspien, établie par le général russe Annenkov entre la Caspienne et Samarcande. Remerciez-moi, je vous ramène dans les pays civilisés. Ce sera plus commode pour vous que pour moi. La civilisation admet difficilement que l'on voyage gratis, comme en pays barbare. Murmura la jeune fille, après ce que vous avez fait, gagner Paris est peu de chose. Oh, je ne suis pas de votre avis. Par là, le voyage était plus dangereux, mais par ici, il va devenir plus difficile. Cependant, le radeau avait été tiré sur la glace et l'on s'éloignait des chasseurs hospitaliers. Le pays se peuplait. De temps à autre, une cabane apparaissait. Au soir, on arriva à l'extrémité du banc de glace. Au-delà, le fleuve limoneux, ayant déjà une largeur de 2 kilomètres, coulait entre des rives basses. Après quelques journées de navigation assez monotone, Armand montra à ses amis une bande sombre qui courait au-dessus de la surface de l'eau. « Le Transcarpien !» s'écria-t-il. « Et là, sur la rive gauche, la ville de Tchadjoui !» Mais, comme le gentleman exprimait un doute, oh, « je reconnais le pont de bois d'Annenkov, qui sur 4 kilomètres porte les trains de Samarcande. »« Vous êtes déjà venu ici ?» dit Aurette. « Oui, dans un fauteuil. Vous dites que j'ai lu le livre illustré de mon ami Napoléon Ney, de Paris à Samarcande, et que je retrouve ici l'original de ses dessins. » Une heure plus tard, le radeau accostait un peu en amont du pont de bois, chef-d'œuvre d'audace et de patience, accompli en 6 ans par le premier bataillon des chemins de fer russes. Nous allons à la gare, leur fit alors Armand. En savez-vous aussi le chemin? Rien de plus facile. Et avisant un Sarthe qui passait, voilà ça, lui dit-il sur le ton de l'interrogation. L'homme en répondit des paroles incompréhensibles, mais ses gestes étaient clairs. Il fallait tourner à gauche, puis à droite. « Mais vous ne nous aviez pas dit que vous saviez le russe ?» fit en souriant la jeune fille. « Oh, je ne connais que ce mot-là, Vodsa, toujours par le livre de mon ami. Je m'en suis souvenu à propos, n'est-il pas vrai ?» Arkmen intervint. « Oh, je vais assurément vous quitter ici, puisque vous allez vers l'Occident, jusqu'au pays qui touche la mer, ton pays à toi, mon vaillant maître. Mais à Tchadjoui, je peux encore vous rendre service. Je comprends et parle suffisamment la langue de nos frères slaves. Ne sont-ils pas un peu des Asiatiques comme nous ?»« Merci, brave Akhmen, fils d'Iskander. » Je commence à croire que la légende dit vrai et que vous avez du sang d'Alexandre le Grand dans les veines, car tu as été en ces jours de péril aussi courageux qu'habile. Merci. Ton offre peut encore nous être utile, mais je suis bien tranquille. Le chef de cette gare doit parler le français. D'où vient cette assurance? Demanda Merliton. Ben, il est nécessairement officier russe et appartient au bataillon des chemins de fer.